Chapitre 9e, la langue inconnue. Le roi des détectives avait entraîné dans sa chambre le commissaire de police. Celui-ci, qui avait recueilli les paroles, si toutefois on pouvait appeler ça des paroles, sorties de la bouche du patient, rédigea avec l'aide de Martin Numa un procès-verbal succinct de cette séance. À son point de vue, à lui, elle n'avait donné aucun résultat. C'était en somme pour rien qu'il avait été dérangé. Cependant, il ne s'en fâchait pas, ne s'en montra nullement contrarié, et se déclarait prêt à rendre service à Martin Numa chaque fois que celui-ci aurait besoin de son concours. « En somme, dit-il au roi des détectives, nous devons trouver merveilleux le fait d'avoir conservé jusqu'ici ce malheureux. On doit reconnaître la grandeur de la science des chirurgiens. Ils ont pu, en quelque sorte, réunir les morceaux de ce corps et sont arrivés à rattacher à la vie ce cadavre. Ils ont opéré ce miracle de le faire parler. » Nous devons, après cet hommage d'admiration, constater avec regret que nous, au point de vue judiciaire, nous ne sommes pas plus avancés que si l'homme n'avait pas parlé, que si ce malheureux était réellement défunt. Martin Numa, pour toute réponse, se contenta de prendre une cigarette et de l'allumer. Le commissaire de police reprit. « En effet, mon cher ami, vous espériez non pas obtenir de cet homme un aveu complet, non pas une déclaration formelle, j'allais dire une confession générale, mais tout au moins quelques mots, qui vous ouvriraient un horizon nouveau, vous mettraient sur une piste quelconque, vous désigneraient une route à suivre, en somme, le départ d'une enquête. » Martin Numa inclina la tête. « J'espérais cela, en effet, c'est-à-dire que je l'espérais sans y compter beaucoup. » « Je comprends. Et au total, vous n'avez que des sons sortis de la gorge de ce malheureux, des sons faciles à prononcer, auquel il n'est pas possible d'attacher la moindre importance, les premiers balbutiements d'un enfant qui commence à parler. « En effet, dit Martin Numa, nous n'avons rien entendu que des sons, qui ne nous apprennent rien. Pas un mot, pas un nom, rien de complet. Rien, en vérité, dut-il. C'est regrettable. C'est désolant. J'espère que nous aurons la prochaine fois plus de chance, que nous obtiendrons peut-être un nom, quelque chose enfin qui en vaille la peine. Ce serait très heureux. Car aujourd'hui, à mon procès-verbal, qui d'ailleurs ne comportera que quelques lignes, je vais consigner simplement ceci. Écoutez, mon cher. » Le malade, ayant fait effort pour parler, fit entendre comme un murmure et dans cette émission de sons, nous crûmes reconnaître assez distinctement ceci, dalle, dalle, ta, ta, tout. Martin Numa approuva de la tête. « C'est bien cela, en effet. C'est parfaitement cela. Ce malheureux n'a pas dit autre chose. » Le commissaire de police s'écria. « Je l'ai consigné puisque nous devons l'exactitude dans nos procès-verbaux, mais ce ne sont certainement pas là des mots français mal prononcés. Je ne vois pas ce que cela peut signifier dans aucune phrase commencée. Ce sont à mon avis plutôt des cris arrachés par la souffrance, qui n'ont en vérité rien d'intelligible. » « Rien d'intelligible en vérité, » appuya Martin Numa. « Une chance nous reste, c'est que contre mon opinion, ce soit des mots étrangers, dans une langue quelconque que nous ne connaissons pas. C'est possible, en effet. Dans ce cas, je vais soumettre cela à nos interprètes de la préfecture, car chez eux, toutes les langues sont connues. Ils sauront deviner quelle est la langue que parle ce malheureux et ce que signifient les mots qu'il vient de prononcer. Ce sont, à mon avis, plutôt des cris de souffrance. » Martin Numa secoua la tête. « Mon cher ami, non. Ce n'est pas la peine d'aller déranger les interprètes pour si peu. Vous croyez ?» Vous l'avez dit, et je me range à votre opinion première. Ce ne sont pas des mots qu'a prononcé ce malheureux. Nous avons simplement entendu les plaintes que lui arrachait la douleur. Tant qu'il n'avait pas conscience de vivre, qu'il était insensible, il n'avait pas la force de se plaindre. Exact. En revenant à la vie, il sentit en même temps la douleur, et ses dalle, dalle, ta, ta, et même ses tout, doivent être encore des cris mal exprimés, arrachés à ce pauvre corps si effroyablement torturé, et déformé au surplus par cette bouche brisée. « Oui, c'est ce que je crois. À mon avis, ces dalles, ces ta, ces tout, ne sont pas des mots à demi prononcés, mais simplement ces exclamations qui accompagnent dans toutes les langues la douleur humaine. Aïe, aïe, là, là, oh, oh !» Le commissaire de police s'écria. « Mon cher, vous avez raison, c'est ça. C'est bien ça. Je vais donc, dans mon procès-verbal, dire simplement que le malheureux a proféré des cris de douleur, et je serai dans la vérité. « Oui, c'est cela. Aïe, aïe, là, oh, c'est cela. » « Je le crois, » dit Martin Numa. Je vous remercie néanmoins du concours précieux que vous m'avez apporté. Je vous suis reconnaissant de l'offre que vous m'avez faite de me seconder si complaisamment dans ma tâche pénible. » Ils se serrèrent les mains chaleureusement, et le commissaire de police prit congé du roi des détectives. Resté seul dans sa chambre, Martin Numa fit, comme il en avait l'habitude, comme c'était chez lui une manie, quelques pas de long en long dans la pièce en réfléchissant. Puis, fatigué, il revint s'étendre sur le lit. Il alluma une cigarette, et tout en envoyant au plafond des volutes bleues, il se mit à repasser dans sa tête tout ce qu'il venait de voir et surtout d'entendre. Sa cigarette finie, il en jeta le bout dans un cendrier et se leva. Il alla s'asseoir dans un grand fauteuil près d'une table. À portée de sa main se trouvait un bouton électrique. Il sonna, attendit quelques instants. Ce fut Prosper qui parut. « Entrez, » dit Martin Numa, « fermez bien la porte derrière vous. Tenez, asseyez-vous en face de moi. Vous devez être comme moi passablement fatigué et moulu. »«
Quelque peu, en effet, chef. » Mais vous pouvez toujours nous ordonner de marcher, vous savez, alors même que nous marcherions sur les genoux. Nous irions jusqu'au bout pour vous être agréable.
Je le sais, mon ami, merci. Il y eut un silence. Martin Numa ouvrit une boîte de cigarettes, la tendit à Prosper qui en prit une. Martin Numa en prit une autre. Lentement, il replaça la boîte, chercha des allumettes et, toujours silencieux, gratta un tison, donna du feu à Prosper, alluma sa cigarette et jeta l'allumette. Puis il se mit à fumer tranquillement, silencieusement, sans bouger, tout en fixant sur son aide ses yeux froids dans lesquels cependant brillait une lueur extraordinaire. De son côté, Prosper, se mettant au rythme de son chef, lentement, silencieusement et comme sans bouger, alluma sa cigarette, mécaniquement, fuma, se réglant absolument sur les bouffées que lançait Martin Numa. Et les deux hommes, pendant un instant, continuèrent ce jeu silencieux et impressionnant. Martin Numa, dans le cendrier, fit d'un coup du petit doigt tomber la cendre de sa cigarette. Prosper fit de même. Martin Numa se rejeta en arrière dans son fauteuil. Prosper lui s'appuya au dossier de sa chaise. Puis le chef et le second de nouveau se regardèrent silencieusement et encore gardèrent le silence. Enfin, Martin Numa parla. « Qu'avez-vous entendu là-bas ? » demanda-t-il simplement à son second, et Prosper répondit « Da, da, ta, ta, tout. »«
Bien, c'est tout ?»«
C'est tout, oui, chef. Dal, dal, ta, ta, tout. »«
Parfait. Alors mes oreilles ne m'ont pas trompé, c'est bien ça. »«
C'est ça, il n'y a pas d'erreur possible. »
Le commissaire a entendu, lui, « Aïe, aïe, oh, oh, là, là !»
des cris que la douleur arrache au patient.
« Non, chef. » Ce n'était pas des cris de douleur comme cela, mais bien, si je puis dire ainsi, des morceaux de mots que ce malheureux a prononcés. Et ces fragments de mots, ces bouts de paroles, puisqu'il faut dire ainsi, étaient vraiment ceux-ci, dal, dal, ta, tout.
Martin Numa alors appuya. C'est cela, en effet, vous avez raison, Prosper. Il n'y a pas à s'y tromper. J'avais entendu cela, mais je tenais, pour affirmer ma conviction, à avoir votre déclaration. « Ce que vous avez entendu corrobore ce que mes oreilles ont saisi. » Puis, après un nouveau silence, il dit « Eh bien, mon cher Prosper, savez-vous ce que signifient ces morceaux de mots, ces lambeaux de paroles, comme vous disiez, prononcés par ce malheureux ? Vous en doutez-vous ?
Non, chef. »
Martin Numa déclara fermement « Voici. Écoutez. Dal veut dire Vidal. » Prosper sursauta.
« Oui, chef, oui, je comprends maintenant. » Vidal, Éloi Vidal, le garçon de recette qui a si singulièrement disparu, Éloi Vidal.
Puis il demanda, anxieux, mais le reste?
Que signifie cela, ces bouts de mots, ta, tout?
Martin Numa hésita une seconde, puis répondit,
ce que cela signifie, je vous le dirai plus tard.
Prosper tressaillit et demanda, vous le savez donc, chef?
Sur un ton singulier, Martin Numa répondit, peut-être, mon ami, peut-être.
Et il garda le silence. Au bout d'un moment, Prosper se leva, comprenant que son chef voulait demeurer seul, qu'il n'avait plus rien à lui dire, et il se retira. Mais très anxieux par ce qu'il venait d'apprendre, il retourna à son poste d'observation, souhaitant que le moribond eût dans la nuit ou dans la matinée de demain assez de force pour prononcer plus clairement des mots ou pour dire quelque chose de nouveau,
qui jeta un peu de lumière dans cet angoissant mystère. Mais le mystérieux blessé semblait devoir passer une nuit calme. Sa respiration, quoique très faible encore, était normale, régulière. Il n'avait pas de ces sursauts, de ces crispations douloureuses dans lesquelles, chaque fois, on redoutait de le voir expirer. « Ça va bien, » avait dit le docteur à sa dernière visite. « S'il peut continuer sa nuit dans ces conditions, il en éprouvera le plus grand bien. Dans ce repos, il va gagner de nouvelles forces. » « C'est presque une nuit de convalescent, » ajouta l'interne de service. « Oui, » dit le docteur, « mais ce sont aussi les nuits dangereuses. Quand nous croyons que le malade repose, c'est que bien souvent, il est à bout de force. » C'est fréquent, mais cet homme jeune devait être vigoureux, très fort. Il a fait preuve jusqu'ici d'une résistance étonnante. Parfaitement. Je le crois encore capable de lutter contre la mort, alors qu'à sa place tout autre aurait déjà rendu l'âme. Il se débat. Il ne veut pas céder. Il est évident qu'on ne le verra pas partir sans encore une lutte formidable. Je le crois. C'est pour cela que, devant ce calme, je pense que ce n'est pas un manque de force, mais, sinon de la lassitude, du moins de l'apaisement. Il repose vraiment. Il reprend pendant ce temps des forces nouvelles. C'est un gaillard énergique, admirable, qui peut en sortir. Le docteur hocha la tête. Ne disons rien encore. Vous savez quelle surprise nous réserve ces pseudo-entrées en convalescence. En effet. Attendons demain. Oui, demain. Alors seulement nous verrons s'il a réellement conquis des forces suffisantes pour continuer sa lutte contre la mort. Le docteur se retira. L'interne de service demeura avec Prosper. Il n'y a rien à changer, lui dit-il. Nous devons simplement attendre demain. Bon, attendons. Moi, je crois que, sauf une surprise, le malade verra encore le jour nouveau. Je l'espère. Moi, j'en serais enchanté, car c'est un cas admirable de résistance. Il a bien mérité de revivre ce cadavre vivant. Le dévoué interne, encore une fois, regarda le malade, tâta son pouls presque imperceptible, étudia sa respiration, puis dit à Prosper « Nous n'avons rien à faire pour le moment. On peut le laisser en repos sans crainte. Je reviendrai le voir dans une heure. Vous pouvez-vous aller vous étendre? Vous m'avertirez en cas d'alerte, bien entendu. » Prosper, qui en avait en somme grand besoin, alla donc s'allonger sur un lit de camp de surveillant pour détendre un peu ses membres. Mais il ne dormait pas, ou plutôt, il dormait à la façon d'un détective en activité de service, c'est-à-dire un côté du corps seulement à la fois, l'autre restant en éveil. Il se tenait prêt à bondir au premier signal, au moindre appel. Je vous assure que ce n'est pas extrêmement facile, et qu'il faut un grand entraînement pour en arriver à cette façon de dormir qui paraît invraisemblable. Mais il paraît que chez les détectives, les chasseurs, les contrebandiers, les veilleurs de nuit, à force, à la suite de longues veilles, un instinct spécial se développe. C'est cet instinct dont sont dotés les chiens de garde, et aussi les animaux chassés, les lièvres, tout le gibier, et de même les oiseaux de basse-cour, les oies, les coqs surtout. Bref, tout comme Martin Numa, ses lieutenants, les hommes de sa brigade, s'étaient entraînés à cette façon de dormir, tout en ne dormant pas, de demi-veille, qui permettait de se reposer d'un côté et puis de l'autre, et de trouver ainsi un repos à peu près complet. Quant à Martin Numa, nous savons que, sauf quand blessé, il devait par force rester au lit, par force dormir, on ne savait pas quand il dormait, on ne savait même pas s'il dormait jamais. Ici, à l'Hôtel-Dieu, dans sa chambre, on pouvait entrer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, aux heures les plus imprévues, on le trouvait toujours les yeux ouverts. La seule concession qu'il faisait au sommeil, c'était de ne pas fumer son éternelle cigarette, et encore. Ces hommes prétendaient qu'ils pouvaient fumer tout en dormant. On pouvait donc entrer chez lui à tout moment de jour et de nuit. On le voyait tranquillement sur ses oreillers de malade, de blessé, mais les yeux ouverts. Et cette nuit d'autant plus que Prosper était venu lui dire le résultat de la dernière visite du docteur et les pronostics de l'interne de service. Et Martin Numa, très calme en apparence, mais intérieurement anxieux, attendait le lever du jour, espérant que le blessé mystérieux verrait lever l'aurore et qu'il aurait assez de force enfin pour répondre à ses questions et lui donner quelques éclaircissements. Et vous pensez bien que Martin Numa ne dormait pas, même en détective. Le brave Prosper, quand il avait assez dormi d'un côté et qu'il allait changer de position, avant de se coucher sur son nouveau côté, se levait et venait mettre son nez à la porte de la chambre de son chef. Il espérait le trouver enfin endormi, se reposant en entier, complètement, comme il aurait fallu. Il venait sur la pointe du pied, sans faire le moindre bruit, comme le chef le lui avait enseigné. Mais chaque fois, dès qu'il arrivait à la porte, un petit sifflement, insaisissable pour tout autre, lui disait que le chef ne dormait pas. Martin Huma veillait. Il attendait, il écoutait. Il suivait ce qui se passait dans la chambre, voisine de la sienne, que le blessé mystérieux occupait. Les heures s'écoulaient lentement, ces heures pénibles de nuit d'hôpital, de maison où l'on souffre. Une après l'autre, se tirant, s'allongeant, ayant peine à se suivre ou à finir. Mais enfin, la première heure du matin sonna dans le silence, un coup seul, triste, avec une vibration douloureuse, comme un cri. Deux coups, plusieurs coups, se soutiennent, indiquent la vie. Mais un seul coup est d'une tristesse angoissante. C'est une note de glas. Il semble que ce coup dise « mort ». Cependant, Martin Huma, qui n'avait pas l'esprit tendu vers le mysticisme, et qui se sentait au contraire porté vers le positif, qui dégageait les choses de l'ambiance dont l'imagination les entourait pour ne voir que la réalité des faits, ne s'arrêta pas à la tristesse de ce coup d'horloge. Il y vit tout autre chose. Il se dit « Voilà le matin. Mon homme a passé la nuit. On peut espérer qu'il vivra encore aujourd'hui. » C'était cependant une sorte de faiblesse chez cet esprit positif que de penser cela, car rien ne disait de façon certaine que le blessé dût mourir dans la nuit. Comme dit le poète, la mort n'a pas d'heure de préférence. Elle vient aussi bien en plein midi, par le plus beau soleil, que pendant la plus désolée des nuits. Mais ici, Prosper n'était pas venu dire à son chef que le malade se trouvait en pire état. Donc, on pouvait espérer qu'il verrait encore le jour qui commençait. Or, s'il voyait ce jour, il serait plus fort. Et s'il était plus fort, il pourrait peut-être prononcer mieux quelques paroles. Martin Huma, ayant donc maintenant quelque espoir, ne s'endormit pas. Mais il alluma une cigarette. Il attendit. À vrai dire, le calme de cette nuit ne lui apprenait rien qui vaille. Certes, il ne prétendait pas être plus fort que les médecins. Mais il avait vu tant et tant de malheureux mourir, alors que la guérison semblait presque venue, qu'il restait sceptique, malgré tout son espoir. Il n'avait rien dit, mais il n'en pensait pas moins, et alors que tout le monde l'espérait, comptait sur cette guérison, lui la souhaitait, mais ne voulait y croire que quand il la verrait. Or, il savait que bien souvent c'est après une nuit de repos, comme celle que venait de passer le blessé, que le dénouement fatal se produisait. Le matin était venu, maintenant. Martin Huma attendait le réveil du blessé. À tout hasard, il se leva et s'habilla pour être prêt à toute éventualité. La demi sonna, aussi triste que le coup de la première heure. Mais Martin Huma gagna un peu plus de confiance. Puis deux heures sonnèrent. Deux coups, tirant l'air, deux coups, ce n'était plus la voix seule, le cri, l'appel désespéré, sans écho, sans réponse. Deux coups, plus de force, la vie peut-être. Martin Huma se dit « La nuit maintenant est finie. C'est le matin, peut-être est-il sauvé. » Il alluma une nouvelle cigarette. « Maintenant, se dit Martin Huma, attendons le réveil. Le blessé ne peut dormir plus longtemps. » En effet, Martin Huma finissait à peine sa seconde cigarette que Prosper entrait dans sa chambre. « Chef, lui dit-il doucement, le blessé commence à s'éveiller. J'entends, j'entends. » Prosper fut étonné de voir son chef déjà habillé, déjà sur pied. « S'il y a quelque chose d'anormal dans le réveil, dit Martin Huma à son lieutenant, allez tout de suite prévenir le médecin de service. Bien, chef. Il est au courant, nous pouvons compter sur lui. Moi je viendrai en même temps que lui auprès du blessé. C'est entendu. Mais personne autre que l'interne, vous et moi. Compris. » Prosper retourna au poste d'infirmier qui lui était attribué. Pendant ce temps, qui ne dura d'ailleurs que quelques minutes, le blessé lentement s'éveillait. Il bougeait, remuait péniblement dans son pansement qui l'enserrait. Il faisait visiblement de grands efforts pour revenir à lui. Enfin, il parvint à ouvrir les yeux. Depuis qu'il avait essayé de parler, on s'était ingénié à faire à son menton un pansement qui permit à sa bouche de s'ouvrir, qui laissa passer et la sonde pour le restaurer, et aussi les paroles qu'il voudrait prononcer. Il tournait de tous côtés des yeux effarés, cherchant à se reconnaître, à se ressouvenir. Ce furent les douleurs que les mouvements arrachèrent à ses membres qui le rappelèrent à la dure réalité. Alors il dit d'une voix beaucoup plus forte que jusqu'ici « Ma, ma, ma !» Il ouvrit autant que cela lui était possible sa bouche informe. « Ma » redit-il plus fort avec insistance. « Ma !» Prosper regarda son chef avec inquiétude. Il croyait, lui, que le blessé avait reconnu le roi des détectives et le désignait. « C'est ma, ma, ne voulait-il pas dire Martin Numa ?» Mais Martin Numa fit à Prosper un rapide signe de la tête pour dire « Non, il ne veut pas dire Martin Numa. » Et il dit au docteur « Je crois qu'il faudrait avant tout donner un peu d'eau à ce pauvre diable. » « De l'eau ?» firent et le docteur et l'interne. « De l'eau ? Pourquoi pas le réconfortant ? Ce que nous avons préparé pour lui ?» Martin Numa insista. « On le lui donnera ensuite, mais la fièvre le brûle. Il veut boire, boire, boire. » Alors il prit une carafe d'eau, et bien sous les yeux du malade qui suivait tous ses mouvements, il versa de l'eau dans un verre. Les yeux du blessé eurent comme un éclair de joie. L'interne alors, avec la sonde qui servait à l'alimenter, fit glisser dans la gorge du blessé le contenu de ce verre d'eau, et cette eau sembla porter un soulagement immédiat et très grand au patient. Il tourna les yeux encore vers le détective et dit d'une façon gutturale, profonde, « Chat, chat !» Mais il gardait les yeux fixés sur Martin Numa, avec une insistance qui étonna l'interne de service. Martin Numa prévint toute question en disant tout de suite, « Il m'est simplement reconnaissant d'avoir deviné son désir de fiévreux. Il voulait de l'eau. » Le blessé resta un assez long moment ainsi immobile, puis il respira plus fort. Il gonfla sa poitrine comme pour faire un plus puissant appel d'air. Et enfin il dit, cette fois d'une voix forte, « Dalle, dalle, ta, ta, tout, ta, tout. » Il eut alors un tressaillement dans tout son misérable corps. Il fit un effort comme pour vouloir se lever, dresser la tête. « Ta, tout, » redit-il, « ta, tout. » Et comme si c'eût été l'effort suprême, il retomba sur ses oreillers, raides, sans le moindre frémissement. Le docteur se pencha sur lui, écouta les battements de son cœur, le mouvement de sa respiration. Mais le blessé ne respirait plus, son cœur venait de cesser de battre. Celui qui n'était qu'un cadavre vivant venait enfin de mourir. On fit les constatations habituelles, on remplit les formalités administratives, mais quelques moments après, Martin Numa revenait avec le docteur et Prosper dans la chambre du mort. Les portes étaient bien fermées. Martin Numa découpa les bandelettes qui enserraient le malheureux corps. Il mit à nu la poitrine. « Pauvre une, » dit-il, « bien. » Il frotta la poitrine avec un tampon d'alcool et d'éther, nettoya cette peau comme l'on avait fait avant une opération. Et longuement, il examina cette poitrine, semblant y chercher un signe, un indice quelconque. Enfin, après cet examen que suivait attentivement le docteur, il se releva. « C'est bien, » dit-il. « Je n'ai pas trouvé ce que j'espérais découvrir, mais j'ai vu ce que je voulais voir. » Comme le docteur le regardait avec étonnement, ne comprenant rien à ses paroles, en souriant, Martin Numa lui dit « Docteur, je ne veux pas devant vous avoir l'air de parler comme ce malheureux, par mots inintelligibles. Cependant, je crois que vous connaissez son langage. Vous nous avez montré que vous le compreniez. Pas tout à fait, docteur. Ne me faites pas plus savant que je ne dois l'être. Vous me semblez non pas seulement un savant étonnant, mais un sorcier remarquable. Bien. C'est peut-être vrai, je suis un sorcier. Vous serez brûlé vif, sans aucun doute. Mais dites-moi, docteur, ce qui, dans cette dernière scène, vous a paru acte de sorcellerie. Je vous en donnerai avec plaisir l'explication, et vous verrez comment on peut être sorcier à bon compte. « Ainsi que souvent je le dis à mes collaborateurs. » Le docteur dit alors, « Ce qui m'a étonné tout d'abord, c'est que vous ayez pu deviner le désir suprême de ce malheureux. Qui demandait de l'eau ? Oui. Voyez comme c'est facile. Cet homme brûlait de fièvre. Oui. Vous vous apprêtiez à lui donner un remède, comme son traitement l'indiquait. Parfait. Mais plus que tout remède, ce malheureux voulait boire. Tous les fiévreux sont dans le même cas. Très juste. » Ce pauvre diable tournait les yeux désespérément vers l'angle de la chambre où sur la table se trouvait une carafe d'eau. Je n'ai pas remarqué. Tout simplement parce que vous, docteur, vous vous occupiez du malade en tant que médecin. vous ne pouviez penser qu'à la maladie, au remède, au soulagement à apporter.
En effet.
Tandis que moi, je n'avais pas cette préoccupation. Et je regardais surtout non pas tant le malade lui-même que l'individu. Je ne cherchais pas les symptômes du progrès en bien ou en mal de son état. Je suivais seulement son regard d'homme affolé. Et je vis que ses yeux fixaient obstinément la carafe d'eau. Or, vous, docteur, vous ne pensiez pas à lui donner de l'eau. Et il ne réclamait que cela, de l'eau. C'est très possible. De plus, il a prononcé un mot. C'est même le seul mot complet qu'il ait pu dire parmi tous ces sons informes qui sortaient de sa bouche brisée. Et ce mot, que personne de l'entourage n'a entendu, quel était ce mot? Ma.
Ma? Le pronom ma?
Non, docteur. Le mot ma. Or, ma est le mot, pour ainsi dire, sacré en pays d'Orient, en pays chaud, chez les musulmans, chez les habitants du Sahara. Ma veut dire eau.
Cet homme est donc un arabe?
Arabe, algérien, je ne sais encore. Mais je me suis assuré par la couleur de sa peau qu'il devait être de race foncée. Il a du sang noir et il parle arabe.
Vous êtes merveilleux.
Il a dit le second mot que la politesse arabe, que le Coran recommande de dire à qui vous donne à boire, vous offre de l'eau. Il a dit, mais à moitié, le mot qui ne peut se transcrire car il comporte cette prononciation gutturale dont les Espagnols ont hérité des Maures et qu'ils appellent la jota. Cet homme, après avoir bu, a dit « Sakiha », qui signifie « merci ».
Martin Numa dit au docteur
« J'ai fait dans cet adorable pays qu'est l'Algérie un séjour de quelques mois. Séjour trop court, puisque tous ceux qui vont en Algérie ne voudraient plus en revenir. Mais j'ai pu apprendre les quelques mots que l'on entend le plus fréquemment. Et voilà toute ma sorcellerie dévoilée. Le regard du fiévreux, la carafe d'eau. Vous le voyez, docteur, tout homme pouvait être aussi sorcier que moi. »
Oui, répliqua le docteur, si tout homme avait l'esprit d'initiative, la pensée prompte de Martin Numa,
si tout homme savait comme vous voir ce que personne ne voit et comprendre ce que personne ne comprend.
Le docteur dit encore, mais cet homme a prononcé d'autres mots, d'autres bouts de mots.
Martin Numa répondit, ma science et ma sorcellerie, docteur, ne vont pas plus loin que l'eau, et merci.
Et il ajouta, maintenant, docteur, cet homme est inconnu. Personne n'est encore venu le réclamer. Il appartient donc à la justice.
C'est exact. Alors je vais vous demander de le faire transporter à l'Institut médico-légal. Rien de plus facile. Il faut qu'on le garde. Est-ce que vous espérez le faire encore parler?
Très sérieusement, Martin Numa répondit.
Oui, docteur. J'espère lui faire dire encore bien des choses.
Ah?
Je crois que cet homme qui en dernier a montré de la bonne volonté ne voudra pas emporter dans la tombe son secret. Je suis certain qu'il me dira encore des choses extrêmement précieuses.
Qu'on le conserve, il parlera.